Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Frida Kahlo, un nom que tout le monde connaît et auquel on associe ses noirs sourcils déployés comme des ailes d'oiseau, signe reconnaissable entre tous sur la somme d'autoportraits peints par l'artiste mexicaine. Icône du féminisme entre deux guerres, symbole du triomphe de la volonté de puissance féminine dans un monde artistique presque exclusivement masculin. La peintre a vécu une romance avec Léon Trotsky en 1937. Mais s'agissait-il vraiment d'une histoire d'amour ? Pour tenter de percer ce qui reste caché sous le voile du mystère, je vous propose d'explorer quelques instantanés de la vie de Frida Kahlo dans ce nouvel épisode en deux parties. Seconde partie, Trotsky à Mexico. Le 9 janvier 1937, Trotsky et sa femme Natalia débarquent à Veracruz. Par ce genre de hasard qui participe à la fatalité, Diego Rivera est à l'hôpital ce jour-là. C'est donc Frida qui se charge d'accueillir le couple. L'instant est solennel. L'un des pères d'Octobre Rouge, idole de tous les membres de l'Internationale, est ici, devant elle. Comme toujours, sa posture est digne, avec cette hauteur qui fera dire plus tard à un critique de Moscou
« Cette femme a le maintien d'une tsarina ».
Trotsky, habillé on ne peut plus élégamment, a plus l'allure d'un lord anglais que d'un représentant du prolétariat. Les hôtes se transportent à la Maison Bleue, maison d'enfance de Frida, et demeure du couple Rivera. Les autorités qui ont accompagné le projet d'hébergement ont pris toutes les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement du séjour. Des plantons font la ronde autour du domaine, qui a été entouré d'une barrière. On a posé des muselières aux fenêtres. Diego a même acheté la maison voisine pour être certain qu'aucun importun ne viendra y loger. On n'est jamais trop prudent. Les jours passent. Une amitié est-elle née entre Trotsky et Frida Kahlo ? En communiste fervente, elle admire l'homme, c'est certain. Il ne faudrait pourtant pas se bercer d'illusions. Parmi les trahisons de Diego qui ont meurtri Frida, il en est une qui va laisser une trace indélébile dans son cœur, lorsqu'elle a appris que Rivera la trompait avec sa sœur cadette, adorée entre toutes, Christina. Dans une lettre, elle confie sa souffrance à son médecin.
Vous savez tout ce que j'ai enduré. Je crois que vous comprendrez ma situation, même si je vous épargne les détails. Je n'avais jamais autant souffert et jamais je n'aurais cru devoir supporter tant de malheurs. Vous n'imaginez pas dans quel état je suis et je sais qu'il me faudra des années pour faire le ménage dans ma tête. En premier lieu, c'est une double peine, si je puis m'exprimer ainsi. Vous savez mieux que quiconque ce que Diego signifie pour moi. Et d'un autre côté, Christina était la sœur que j'aimais le plus. Croyez-moi, si je vous raconte par le menu les dessous de l'affaire, vous allez prendre vos jambes à votre cou avant d'avoir fini de lire cette lettre. En plus, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis une commère et que j'aime noircir le papier avec des ragots inutiles. Mais ça fait longtemps que je voulais vous écrire et vous dire ce qui se passe, sachant que vous êtes les seuls à pouvoir comprendre pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je souffre autant. Je vous aime trop et j'ai trop confiance en vous pour vous cacher le plus grand malheur de ma vie. C'est toute ma vie qui est touchée, je suis complètement seule.
Frida sait que son volage époux est en pâmoison devant Trotsky. Et il ne lui a pas non plus échappé qu'elle n'a pas laissé son hôte indifférent. Natalia, la femme de Trotsky, ne soupçonne rien, même si elle connaît le penchant de son mari pour les femmes. Et puis, il n'a pas loin de 60 ans quand Frida n'en a pas 30. Pourtant, insensiblement, à l'insu de tous, Frida et Trotsky vont nouer une relation qui apparaîtra d'abord comme simplement amicale. On s'échange des livres, on se promène. Seul détail pourtant d'importance, on se parle en anglais. Langue que Natalia ne connaît pas. Après coup, elle se souviendra lorsqu'elle prêtait l'oreille à la porte derrière laquelle les nouveaux amis étaient censés parler politique, avoir entendu 100 fois prononcer le mot « love », qu'il n'était nul besoin de traduire. Si Frida, toujours maîtresse de ses sentiments, ne laisse rien paraître, Trotsky lui perd complètement la tête. Il envoie des messages enflammés à la jeune femme, messages écrits en anglais et glissés dans les livres qu'il lui prête. Il ne s'est pas écoulé une semaine depuis le début de leur histoire que Trotsky, au paroxysme de la passion, attire l'attention de son hôte et de sa femme Natalia, qui voit bien que quelque chose ne tourne pas rond. Frida, de son côté, parle de lui à ses amis dans des termes pour le moins méprisants. « El viejo »,« le vieux », »,« chochitas », »,« barbichette ». Et cette confession qui dit tout de ses sentiments réels. « Pouf, je suis fatiguée de ce vieil abruti ennuyeux ». Le scandale éclate enfin. Natalia, qui a tout découvert, fait un esclandre. Diego a pris ombrage, la première fois depuis que Frida est sa femme. Trotsky est anéanti. Il supplie Frida de ne pas l'abandonner. Il lui fait parvenir une dernière lettre de presque 10 pages où il se répand en mots d'amour désespérés. Peine perdue. Voyant qu'il n'y a plus rien à espérer, il revient à Natalia. Le couple a été transporté dans un autre logement pour mettre fin à l'outrageante romance. Nouvelle lettre de supplication, cette fois-ci adressée à sa femme. L'homme qui, selon Lénine, mettait le verbe « fusiller » dans toutes ses phrases, commet une dernière lettre pour se faire pardonner. Une lettre qui en dit long sur la dignité morale du chantre de la révolution permanente.
« Depuis que je suis venu ici, ma pauvre p*** ne s'est jamais dressée. » Elle se repose de la tension de ces derniers jours, mais moi, je pense avec tendresse à ma vieille. Je veux la mettre ma langue dedans au plus profond. Oh, Natalochka, Natalochka, ma chérie, je veux encore te. Et avec ma langue, avec ma. Je t'embrasse fermement en tenant tout ton corps contre moi. Ton L.
Une authentique lettre de Trotsky à Natalia qu'il cherche à reconquérir. Natalia, sans doute d'ailleurs conquise par la noblesse du propos et l'amour sincère qui s'en dégage, acceptera le lendemain de la réception de la lettre de renouer avec lui. En Russie, les différents biographes de Trotsky se sont intéressés à cette aventure intrigante sur bien des points. Avant sa mort, Trotsky, complètement désargenté, a dû vendre le seul bien qui était en sa possession, les archives de la Révolution. 17 000 pesos, avec lesquels il a acheté une petite maison, pas loin de chez les Rivera. Il se mit à élever des poulets et à planter des cactus. L'amour du cactus devint même chez lui une véritable obsession, au point qu'un de ses biographes russes envisage que cette disposition était sans doute sa vocation véritable. Après tout, son père avait été un riche propriétaire terrien et le petit Léon avait vécu une enfance à la campagne. Il n'en reste pas moins que pour les Russes, Léon Trotsky a troqué l'histoire de l'Union soviétique pour un poulet et un cactus. Le 24 mai 1940, 20 hommes armés firent irruption chez les Trotsky et déchargèrent plus de 200 balles de pistolet sur le couple qui échappa à la mort en se cachant sous le lit. Le tocsin avait sonné une fois. La deuxième fois fut le signe de la curée. Un ancien lieutenant de la garde républicaine espagnole, Ramon Mercader, s'introduisit chez Trotsky. Il souhaitait lui présenter un article sur la récente occupation de Paris par les Allemands. Tandis que Trotsky entreprend la lecture, Mercader lui assène un coup de piolet sur l'occiput. La mort ne fut pas immédiate et survint quelques heures plus tard à l'hôpital. Mercader fut arrêté, emprisonné 20 ans. Une fois libéré, il émigra en URSS où il fut décoré de l'ordre de Lénine pour son exploit. Quant à la presse soviétique, le lendemain de la mort de Trotsky, elle fut on ne peut plus éloquente.
Trotsky a été victime de ses propres intrigues, trahisons et mensonges. Ainsi, cet homme méprisable a fini sa vie sans gloire, descendant dans la tombe, le front marqué du sceau abject d'espion international.
Cet assassinat, dans le quartier même où vit le couple Rivera, attire l'attention de la police sur une aventure amoureuse qui, de ce fait, se trouve revêtue d'une toute autre signification. On interroge Rivera, on fouille la Maison Bleue. Frida intéresse plus particulièrement les autorités. Elle a en effet rencontré le meurtrier de Trotsky quelques années auparavant. Qu'ont-il pu se dire ? Le soupçon est alimenté aussi par le fait que Diego Rivera avait été chassé d'Union soviétique quelque temps auparavant pour activité anti-soviétique. Son ralliement à la 4e internationale avait-il été une simple posture ? Le fait est que Staline, qui a commandité le meurtre de Trotsky, était devenu bizarrement la nouvelle idole du couple Rivera. Sur une page de son journal, Frida peindra même en grosses lettres « Staline, Diego ». La police ne trouva rien chez les Rivera et cessa de les inquiéter. Frida, comme à son habitude, resta stoïque. Elle ne montra pas la moindre peine en apprenant la mort de son amant. Sa correspondance ne révèle rien d'un quelconque chagrin qu'elle aurait pu éprouver. Pour le célèbre biographe de Trotsky, Léonid Tchernyavski, il ne fait aucun doute que Frida n'a jamais eu l'ombre d'un sentiment pour le père de l'armée rouge.
Elle a cherché, en commettant un adultère avec l'idole de son mari, à humilier Diego, à se venger de ses nombreuses trahisons. Trotsky a couru après elle comme un gamin, façon de parler, car Frida ne pouvait pas se déplacer rapidement. Mais il est peu probable qu'elle a été sérieusement fascinée par lui.
En 1954, peu de temps avant sa mort, déjà enchaînée à son fauteuil roulant, meurtrie par 12 opérations, amputée d'une jambe, Frida Kahlo peint un tableau étrange. Le marxisme donnera la santé aux malades, qui montre Marx jetant ses béquilles. À peu près au même moment, elle a peint une autre toile emblématique appelée « Autoportrait avec Staline ». De Trotsky, nulle trace, ni dans ses souvenirs, ni dans la mémoire. Quant à ce tableau qu'elle lui a dédié à la fin de l'année 1937, ne serait-ce pas une manière de diversion pour détourner les soupçons qui se portent encore sur elle ? La vérité est sans doute beaucoup plus simple. Son journal, commencé quelques années avant sa mort, en dit long sur le secret de son cœur. Il faut lire ces pages marquées par la souffrance et l'inquiétude. Il faut contempler ces aquarelles couleur de sang et de nuit où le nom de Diego apparaît partout, accompagné parfois de longs poèmes en forme de litanie où chaque vers commence par le prénom de son mari. Les trahisons avaient été depuis longtemps vengées puis pardonnées. On avait divorcé puis on s'était remarié un an plus tard. Le couple Rivera n'était pas un couple de façade. C'était à l'évidence une de ces histoires d'amour qui, comme toutes les histoires de chair et de sang, sont ceintes d'une couronne tressée de fidélité et de trahison. La fidélité seule triomphant de tout parce qu'elle s'écrit au singulier et qu'elle porte le sceau de l'unité.
Je te cherche. Je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact, ta peau. Où es-tu ? Où es-tu ? Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre, mon corps te voudrait. Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s'oublier dans ta chaleur. Mon corps appelle quelques heures de sérénité. Ma nuit est un cœur en serpillière. Ma nuit, c'est que j'aimerais te regarder, chaque courbe de ton corps, reconnaître ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour, celui que j'essaie d'endiguer mais qui palpite dans la pénombre dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler mais elle n'a pas de voix. Elle voudrait t'appeler pourtant et te trouver et se serrer contre toi un moment et oublier ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre. Il a autant besoin de toi que moi peut-être, qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un.
Ce poème, écrit en 1939, n'était pas adressé à Trotsky, mais à Diego Rivera. Quelques jours avant sa mort, Frida écrit sur son journal « Mon Diego, mon amour de 1000 ans ». En bas de page, elle écrit de nouveau le prénom aimé en lettres rouge sang si grandes qu'elles paraissent dévorer toute la page. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.